Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, j'ai discuté avec l'écrivaine Dominique Barberis qui a publié un nouveau roman en cette rentrée littéraire, Une façon d'aimer, aux éditions Gallimard. Ce livre est le portrait que fait sa nièce de Madeleine, qui, à la fin des années 50, se retrouve à suivre son mari au Cameroun, à Douala. Elle fait la rencontre d'un certain Yves Prigent, qui va prendre une certaine importance dans cette histoire. Bien évidemment, je ne vous en dis pas plus, car avec Dominique Barberis, on a parlé de ce personnage de Madeleine, à la fois simple et très subtil, de la manière dont Dominique Barberis a trouvé le titre de ce roman, ou encore de son rapport aux récompenses, car Une façon d'aimer est actuellement sur la liste de nombreux prix littéraires, comme, au hasard, le prix Goncourt. Bonne écoute! Bonjour Dominique Barberis.
Bonjour.
Nous sommes chez vous. Je crois que dès lors que je vais chez une personne que j'interroge, je commence par parler de ce lieu dans lequel on est, qui est évidemment souvent important pour n'importe qui, mais particulièrement pour les écrivains et les écrivaines. Qui y reste beaucoup. Est-ce que typiquement vous, cet appartement, c'est un lieu où vous avez pour habitude de travailler, ou est-ce que, je ne sais pas, les cafés, est-ce que vous avez un bureau extérieur,
Alors non, j'ai un bureau dans mon appartement, on n'est pas dans mon bureau, il est juste derrière.
Ouais.
Je travaille maintenant beaucoup ici. J'ai aussi une maison au bord de la mer. Et c'est vrai que j'aime bien y travailler quand je peux y aller, pas tout le temps.
C'est un peu loin, c'est pour ça.
Ouais. Et les cafés, il y a eu un moment où j'allais un peu travailler au café, maintenant beaucoup moins. Parce que maintenant, il y a de la musique, il y a les télévisions dans les cafés.
Les gens, tout ça, ça vous dérange pas dans l'absolu?
Ah non, non, non. Je travaille bien dans le train, par exemple.
Et est-ce que c'est ici qu'une façon d'aimer a pris forme?
En partie,
il n'y a pas
oui.
du tout eu un...
Un voyage, par exemple, qui aurait été à l'origine du livre? Non, pas du tout. Non, non, c'est un livre auquel je pense depuis des années. Hein. Le premier roman que j'avais proposé et qui avait été refusé tournait déjà autour de l'Afrique, de cette Afrique un peu rêvée, parce que j'y suis née. Un peu avant l'indépendance, et j'en suis partie et je n'y suis jamais retournée. Mais j'entendais parler de Douala par mes parents, qui eux-mêmes sont rentrés en 60 et qui, évidemment, comme dans toutes les familles, racontaient des anecdotes, racontaient un peu ce qui s'était passé un peu avant l'indépendance.
Oui, parce que vous y êtes né.
Et il y avait des troubles, et puis il parlait du climat, et puis j'entendais des noms, le pont sur le Vouri, Nkong Samba, le bois des singes, des lieux qui me faisaient rêver.
Et c'est un peu ces récits familiaux qui vous ont nourri, disons, pour la fiction?
Oui, en partie.
En partie.
Et puis, il y a 3 ans, mon père est mort. Et il avait beaucoup, lui, travaillé en Afrique. Il y est retourné, d'ailleurs, après. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai connu un petit peu l'Afrique plus tard, le Mali. J'avais 14-15 ans. Et évidemment, donc, j'ai quand même eu une expérience sensible de l'Afrique. Mais ce n'est pas le même pays.
Ce n'est pas le même pays, de fait.
C'est l'Afrique subsaharienne, alors que Douala, c'est un climat équatorial, c'est une serre, quoi. Le ciel est gris, il pleut sans arrêt, c'est très, très fatigant, paraît-il. Donc, et la végétation n'est pas la même, il y a la forêt vierge. Voilà, donc j'ai... Oui, c'est une rêverie, une très longue rêverie là-dessus. Et l'idée, quand mon père est mort, que les traces de sa vie... lui était parti très jeune. Il avait vécu au début à Sangmélima, qui est une petite ville où je place d'ailleurs le premier poste d'un des personnages, Prigent. Et voilà, je me suis dit, c'est quelques récits, tous ces récits familiaux, finalement. J'étais la seule dans ma famille à m'y intéresser, puisque j'ai 2 frères qui sont nés après, donc l'Afrique ne les concerne pas. Ouais. Et je me suis dit, tout ça va disparaître. Est-ce que moi-même qui écris sur mes documents d'identité ou sur né à Douala, à un moment, je me dirais pas, mais est-ce que c'est vrai? Mis à part les quelques photos que j'ai, qu'est-ce qui en reste? Et ça m'a beaucoup poussée à entreprendre et à aller au bout de ce travail.
Et est-ce que le manuscrit dont vous parliez, qui était donc de toute évidence le premier manuscrit, lui ou est-ce que vous l'avez complètement...
Ça n'avait rien à voir, Non, ça n'avait rien à voir. Il restait l'idée de ce voyage vers l'Afrique, il restait l'idée du bateau qu'on retrouve, mais qui est très...
C'est très court,
dans le roman. Non, je ne l'ai même pas relu. Ce qui aurait pu être une idée, mais on est prisonnier de ce qu'on a écrit. Donc, non, je suis repartie sur autre chose. Mais enfin, c'est dire que c'est une longue patience, on va dire.
Alors, Une façon d'aimer, je crois avoir compté que c'est votre 11e roman.
Oui, ouais. C'est ça.
Tout part d'une photo que voit la narratrice de Madeleine, en l'occurrence, du coup, Madeleine de Télek. Une photo où Madeleine est avec sa fille Sophie dans une rue de Douala, précisément, on vient d'en parler. Madeleine, à présent, est morte. Et le roman est raconté par cette narratrice, donc la nièce. Mmh. Il y a une certaine distance, de fait, qui s'installe avec cette tante, entre cette tante et cette nièce, disons. Est-ce qu'on peut dire, malgré tout, que Madeleine, elle la fascine à certains égards, cette narratrice?
Oui, alors elle la fascine parce que dans la famille, Madeleine et son mari, ils ont vécu en Afrique et c'est une famille assez modeste de l'ouest de la France, donc l'Afrique c'est très exotique. Donc la nièce, elle hérite de cette fascination d'une certaine manière parce qu'aussi elle trouve sa tante élégante, elle porte de jolies robes, elle est aussi un peu distante, secrète. Oui, il y a quelque chose de fascinant, c'est un peu une image pour elle.
C'est un peu un personnage de fiction finalement.
Voilà, c'est un personnage de fiction. Et c'est comme à la recherche d'un personnage de fiction ou en quête de ce personnage de fiction qu'elle va partir, oui.
Alors Madeleine, c'est un personnage qui est issu d'un milieu modeste, qui est assez simple en apparence.
Oui.
Mais ce qui vous a permis de créer un roman, de faire une fiction avec ce personnage, ce sont davantage les zones d'ombre en fait de Madeleine. C'est un peu de cette manière qu'on pourrait la résumer d'ailleurs, un personnage qui part des ombres.
Oui, exactement. Et le fait de choisir cette nièce qui est quand même assez loin d'elle, qui la connaît, mais qui l'a vue, qui la voit même âgée, qui sait des choses, mais elle ne sait pas tout. Et elle va donc s'appuyer sur les photos, sur quelques souvenirs, sur quelques témoignages. Mais en fait, on ne sait pas grand-chose de Madeleine. Et elle va reconstituer, pour partie, on peut dire qu'elle imagine ce qu'il y a dans les trous. Hein.
Ouais.
Et mais c'est aussi par ce biais-là qu'on peut que se crée aussi l'ombre autour de Madeleine puisqu'elle est vue par quelqu'un dans la distance, elle est morte, donc il reste rien ou pas grand chose. Et puis Madeleine, c'est vrai, est quelqu'un qui est toujours resté secret, autour duquel les gens tournent. Même sa famille d'abord, sa mère qui n'est pas du tout comme elle, qui n'arrive pas vraiment à parler à sa fille, puisque Madeleine se marie sur le tard et sa mère lui dit si t'étais allée danser un peu plus, si tu t'amusais un peu plus, puis on sent bien qu'il y a des injonctions auxquelles Madeleine ne répond pas vraiment. Elle se marie comme ça tout à coup, on dirait un coup de tête, on sait pas très bien pourquoi.
Est-ce que d'ailleurs c'est un mariage de quoi, de raison?
C'est, je laisse au personnage sa part d'ombre. Est-ce que elle se résout à ce qui est pour elle le destin d'une femme? Est-ce qu'elle a confiance dans cet homme parce qu'il lui est présenté? C'est probablement pas un coup de foudre. Madeleine, c'est un peu une rêveuse quand même.
Il y a une espèce d'attente presque.
Il y a une espèce d'attente très vague. Dont on ne sait pas très bien ce qui vient la remplir. Alors la rencontre qu'elle va faire à Douala de ce prix Jean qui a l'air de sortir d'un roman semble la remplir, et pourtant ce ne sera pas tout à fait ça non plus.
Justement, cette rencontre avec prix Jean, avec Yves prix Jean, qui est un homme plutôt séducteur, disons, c'est quoi? C'est un coup de foudre? Contrairement à son mari.
Oui, probablement, c'est tout à coup le romanesque qui s'abat sur elle. Il ressemble à Peter Finch dans Au risque de se perdre. Il vient alors qu'elle est au bord de la piste, ce qui est un peu symbolique de ce qu'elle est. Elle est toujours un petit peu en marge. Même dans le petit milieu des blancs qui habitent Douala, on ne sait pas très bien quoi lui dire. Et tout à coup, cet homme assez séducteur, très installé dans la communauté de Douala, s'avance vers elle, lui propose de danser, et puis ensuite manifeste à son égard une attention. On sent bien qu'elle est totalement sous le charme.
Ouais, une attention dont on pourrait même un peu se demander d'où elle vient. Est-ce que Madeleine est émouvante pour lui? Enfin,
voilà. Par quoi est-il séduit? Est-ce qu'il pressent une femme difficile? Et pour certains séducteurs, ça peut ajouter du piment. Parce qu'on lui prête par ailleurs, est-ce que c'est vrai, une liaison avec une Américaine assez en vue? Est-ce qu'il est vraiment touché par elle? Elle est quand même assez jolie, elle ressemble à Michel Morgan. Est-ce qu'il sent qu'il y a quelque chose en elle qui s'est pas épanoui complètement, qu'elle reste un peu en retrait de sa vie? Il peut y avoir toutes sortes de choses. Est-ce qu'il s'ennuie tout simplement et que c'est une distraction de plus? On peut pas le savoir. Mais il y revient quand même, il va lui proposer des rendez-vous, donc il y a quand même quelque chose qui se passe.
Il y a quelque chose qui vient peut-être aussi du comportement de Madeleine, qui brasse un peu le chaud et le froid, sans mauvais jeu de mots, on est en Afrique, mais elle dit oui et non en même temps, elle accepte les invitations.
Oui, elle est très ambiguë, puisqu'elle accepte les rendez-vous et en même temps elle se tient sur la réserve, au point qu'il n'ose même pas lui parler vraiment. Il lui dit j'ai de l'affection pour vous, c'est-à-dire il sent bien que s'il allait plus loin, elle s'effaroucherait totalement. Elle va aussi au rendez-vous avec sa petite fille qui constitue quand même un rempart. Elle est ambiguë comme le sont souvent les femmes, il ne faut pas la faire plus différente des autres qu'elle ne l'est. Et puis il faut replacer ça dans le contexte. Elle est dans ce milieu où tout se sait, où les gens n'ont... Enfin, vivent les uns sur les autres,
oui, c'est ça,
voilà, parce qu'on ne sort pas facilement de Douala. Ces gens-là ne rentraient que tous les 5 ou tous les 10 ans. On regarde, on cancane, on en parle, sans que ça trouble. Moi, il me semble que si Madeleine avait une liaison avec Prigent, ça aurait évidemment des conséquences désastreuses sur son mariage, mais je pense que la petite société de Douala en a vu d'autres et que elle serait beaucoup moins dérangée d'une certaine manière par ça que par ce comportement dans lequel finalement tout le monde voit qu'il y a une espèce d'attraction, mais on a l'impression que voilà, qu'elle reste malgré tout sur la réserve. Donc cette espèce de renoncement qui est le sien, de distance extrême, je trouve que ça a quelque chose, oui, finalement, peut-être de plus provoquant. En tout cas, provoquant à la réflexion.
Ce qui est déjà pas mal, finalement.
Voilà.
Est-ce qu'il y a, vous, des personnages qui vous intéressent plus à écrire? Là, on vient de parler d'un personnage qui est rempli de zones d'ombre, disons, d'un autre qui est séducteur, qui est... un homme à femme, comme on pourrait dire. Est-ce que vous, il y a des... Oui, je sais pas, des...
Alors, oui, disons que dans ce rapport entre une femme et un homme qu'elle va juger, à qui elle va renoncer, éventuellement aussi parce qu'elle le trouve inquiétant. C'était quand même le sujet de mon précédent roman. Oui, ça peut être un type de personnage qui m'intéresse.
Hein. Ouais.
J'ai aussi préfacé Jenner de Charlotte Brontë.
Oui,
y a autour d'un personnage comme Rochester quelque chose qui m'a toujours beaucoup fascinée. Je me suis aussi beaucoup intéressée. Alors, à des personnages, c'est vrai que j'ai des personnages qui ne parlent pas beaucoup et que je tourne beaucoup autour de la difficulté à communiquer. Qui va passer, c'est-à-dire que la communication va passer par autre chose, par des atmosphères. Enfin,
oui, une forme de silence aussi.
Voilà, Madeleine, par exemple, on ne sait pas très bien qui elle est, mais elle est un peu imprégnée par les nuits qui tombent. Enfin, elle est associée à cette espèce de nuit, ces espèces de nuits bruissantes, sans lumière, qui sont celles de l'Afrique. Donc, et j'ai beaucoup travaillé, oui, sur le paysage, sur l'atmosphère des paysages. Mes personnages, souvent, sont des personnages qui parlent peu. Ouais.
C'est, j'imagine, l'une des raisons avec les paysages pour laquelle, en regardant un peu ce qui se disait sur vous, etc., on vous compare pas mal à Patrick Modiano. De toute évidence, ce qui n'est pas nul en soi, bien sûr. Hein.
Non, ce qui est plutôt valorisant.
Et c'est notamment, si on le fait, notamment, c'est un peu pour votre style aussi dont on parle comme d'un style élégant. Est-ce que vous avez théorisé, vous, votre style? Et bien peut-être même travaillé, finalement.
Alors, théoriser, je ne suis pas quelqu'un qui théorise beaucoup.
Okay.
En revanche, j'ai enseigné la stylistique. Donc l'étude du style pendant des années et je m'y suis intéressée. Alors je ne m'intéressais pas à ma propre écriture. On ne peut pas appréhender sa propre écriture de manière technique. Je veux dire, on peut appliquer une réflexion technique, en tout cas moi, sur le style des autres. Mais il n'empêche, ça nourrit un petit peu quand même l'écriture, sa propre écriture. Mais en revanche, je travaille énormément l'écriture. C'est c'est-à-dire mon roman, je le lis sans arrêt à voix haute, j'écris par fragments et les fragments je les écris, je les réécris. Quelquefois j'en supprime après avoir passé des jours la moitié, pour les intégrer à... Parce que, un morceau comme ça ne rentre pas dans un ensemble. Donc, très souvent, j'écris comme ça, des fragments qui s'organisent en un sens. Et finalement, à la fin du travail, je fais un travail d'assemblage très souvent beaucoup plus rapide que tout le reste, comme si tout à coup, l'ensemble m'apparaissait avec des phénomènes d'écho, etc. Mais je travaille beaucoup sur la musique. C'est-à-dire pour moi, même la prose du roman, je ne fais pas des romans très longs, mais je fais des romans, je pense, dans lesquels je cherche à faire rentrer le lecteur dans un état musical.
Oui, c'est exactement ce dont j'allais parler. Ça, c'est peut-être lié à cette lecture à voix haute dont vous parliez à l'instant, là.
Sans doute, oui. Oui, c'est-à-dire...
C'est quelque chose de primordial de lire à voix haute, par exemple.
Ah oui, oui, pour moi, c'est primordial parce que le rythme, les sons, tout ça se répond. Et ça, vraiment, je ne peux pas, travailler sans ça. Je travaille à voix haute.
Ok. Ouais. Dans le roman, il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup de photos aussi. Est-ce que la nostalgie a une grande part dans votre vie ?
Oui, je suis une nostalgique.
Nostalgique,
je crois. Oui, voilà, je crois qu'on peut l'être. On peut l'être. De toute façon, la nostalgie, c'est quelque chose de totalement irrationnel. Il y a une très belle réflexion de Yankelevitch là-dessus qui dit que le nostalgique n'est pas... C'est comme l'amoureux. Il n'est pas nostalgique, il ne regrette pas quelque chose d'objectif, comme l'amoureux ne s'éprend pas nécessairement d'une beauté objective. Mais en fait, la nostalgie, elle a à voir avec le temps. Donc le nostalgique, il est nostalgique de ce qu'il a vécu dans le passé, quoi qu'il ait vécu. Et j'adore ce texte qui montre que être nostalgique, je ne sais pas moi, de Monaco ou de la Côte d'Azur, c'est pas le cœur de la nostalgie. Le vrai nostalgique, il est nostalgique du Nord, d'un Nord triste et pluvieux, dont personne ne voit la beauté, parce que ça n'a pas de rationalité.
Oui, c'est d'ailleurs tout le
principe. Je trouve ça... je suis comme ça.
Très bien, ça me va. Comme
il faut l'accepter.
Exactement. Est-ce qu'on peut parler du titre ?
Oui, si vous voulez. Une façon d'aimer. Ouais.
Est-ce que c'était le titre de travail ?
Non.
Non.
Comme souvent.
Est-ce qu'on peut savoir le titre de travail ou pas ?
Alors, je ne sais pas, il y en a eu...
Il y en a eu plein,
oui. Non, pas plein. Non. J'ai écrit pendant un moment avec, dans l'idée, un chagrin de femme. Parce que Madeleine est un personnage assez douloureux.
Ouais.
Et puis parce que finalement, dans cette enquête sur la vie de sa tante, la nièce cherche à cerner ce regret, ce souvenir qui a peut-être occupé Madeleine toute sa vie sans qu'elle en parle, tout le restant de sa vie sans qu'elle en parle. Donc j'avais cette idée-là. C'est vrai que ça ajoute un peu le poids du négatif, peut-être que le mot chagrin, que moi personnellement j'aime beaucoup, mais je sais bien qu'il faut un peu se tourner, se soucier d'autre chose. Et puis j'ai tout à fait conscience qu'un titre, on n'est pas toujours le meilleur... on n'a pas toujours le meilleur point de vue sur le titre. Donc j'ai travaillé comme ça avec ce titre-là. Mais
qui est dans le roman quand même. L'expression est quand même dans le roman.
Voilà, l'expression est dans le roman parce qu'elle est empruntée à un texte de Colette.
Ah ouais ?
Oui, qui parle quelque part, dans un très très joli texte d'ailleurs, d'une espèce de regret comme ça, très pointu, que personne ne verra, et qu'elle appelle un chagrin de femme. Et je crois que ça définit assez les femmes, c'est-à-dire une espèce de blessure comme ça dont elles ne disent rien, mais qu'elles vont garder très longtemps. Et je trouve je trouve ça très beau. Et donc, j'avais cette idée, en plus, avec la référence à Colette. Et puis, c'était pas refusé a priori, mais j'avais pensé aussi à un titre qui était Parallèle 4. Parce qu'il y a dans le roman cette guinguette, enfin qui n'était pas une guinguette, mais ce petit endroit où les blancs allaient danser, puis que le thème de la danse est important, avec la musique, les chansons et tout. Et puis, parce que dans Parallèle 4, il y a une référence à Douala, puisque Douala est sous le quatrième parallèle. Ouais. Donc, je trouvais que ça, c'était bien. Le seul problème que posait ce titre, c'était qu'il est un peu surprenant. On ne sait à quoi il réfère. Et c'est ce qu'on m'a objecté. Et ensuite... voilà, il n'y en a pas eu tant que ça. C'est moi, d'ailleurs, qui ai pensé autour du silence. Hein, c'est une façon d'aimer, qui ai pensé à ce titre.
Alors, le silence, vous venez d'en parler. Ça fait un petit peu partie des thèmes du roman. Qu'est-ce qu'on peut voir de vos obsessions dans ce roman ?
Eh bien, précisément, ce rapport à ce qui ne peut pas s'exprimer. Je suis assez... perméable au paysage. Ouais. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le monde est devant nous comme une énigme.
C'est souvent le cas.
Voilà, que les choses ne parlent pas. Et je pense d'ailleurs souvent à cette phrase magnifique, enfin cette citation magnifique de Merleau-Ponty qui dit « Le sensible, c'est ce qui est évident en silence ». Et je trouve ça très beau, les arbres, le ciel, tout ça, c'est évident en silence. Ça veut dire que ça nous provoque, nous, à parler. Et il me semble que je cherche à parler des gens qui ne parlent pas et des choses qui ne parlent pas, c'est-à-dire à essayer de dire... Il y a quand même une espèce de... Quand on s'affronte au silence... On essaie de porter le langage aux frontières de l'indicible, en fait. Voilà, c'est tout le problème du langage, hein, comment passer. Enfin, je me suis pas mal intéressée, je ne suis pas du tout poète, hein, mais je me suis pas mal intéressée à la poésie, j'en lis pas mal. Et c'est vraiment, comment dire, les choses avec les mots, quoi. C'est-à-dire comment passer du silence à l'écriture. Et j'ai l'impression que quand je regarde ce que j'ai écrit, parce que me préparant à des questions comme la vôtre, je me suis dit, il faut bien que je réfléchisse à ça. Je pense qu'il y a quand même une continuité autour de ça. Beaucoup de mes romans sont nés, il y en a un qui se passe par exemple au bord de la Loire, autour d'un paysage et dont une histoire va naître, mais comme si elle cherchait, autant que les descriptions que je fais de ce paysage, à raconter ce paysage ou à cerner le mystère de ce paysage. Et un certain nombre de mes romans tournaient aussi autour d'une enquête, semble-t-il, policière, vous voyez, avec une énigme, avec aussi des hommes inquiétants. Il y a beaucoup de rôdeurs inquiétants dans mes textes.
Ouais, comme une espèce de manière de faire œuvre aussi, sans le vouloir, j'imagine, quoique, je ne sais pas. Mais il y a une espèce de fil d'harmonie, finalement, entre vos romans.
Une continuité moins, je pense, qui est celle de l'écriture, qui cherche toujours un peu la même chose, et puis quand même, oui, de certaines thématiques. Ouais.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir arrêter d'écrire ?
J'ai parfois eu la tentation. J'ai longtemps écrit de manière assez... Enfin, confidentielle est un mot peut-être un peu trop fort, mais sans rencontrer un grand succès. Ce qui est difficile, hein, voilà, bon, j'avais la chance quand même d'avoir un éditeur, je mesurais aussi, et puis je me suis toujours dit que mes romans ne reposent pas essentiellement sur une intrigue palpitante, mes romans cherchent quelque chose, voilà, ils sont pas tout à fait dans l'air du temps, à certains égards. À certains égards, même si derrière la reconstruction que je fais des années 50, ça peut retourner vers le monde contemporain. Hein, et Madeleine, je pense qu'il en existe encore.
Ça me paraît, ouais.
Voilà, ça me paraît assez évident, mais voilà. Et donc, alors, tentation d'arrêter, oui, on peut l'avoir, mais bon, c'est ce que je sais faire. Je crois que, voilà, j'ai toujours voulu le faire et, ouais, non, sans doute, je n'arrêterai pas.
J'ai fait un travail de recherche très sommaire pour cette question, puisque sur votre page Wikipédia, il est écrit que vous êtes membre de l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire. Ma question est la suivante, qu'est-ce que c'est ?
Alors,
de manière assez simple, quoi, en fait.
Oui, alors, j'ai eu il y a quelques années, ça fait quelques années, pour ce, tout à fait par hasard d'ailleurs, mais pour ce roman qui portait sur la Loire,
ouais,
et qui avait dû attirer l'œil de l'Académie. L'Académie de Bretagne, c'est une académie régionale, comme il y en a, je pense, dans un certain nombre de régions, et qui rassemble des écrivains de la région. Des gens qui sont dans le milieu culturel de la région, je pense, voilà. Et donc, ils m'ont donné, ils remettent des prix.
Et précisons que vous êtes originaire de Nantes.
Voilà. Et ils m'ont remis le prix de la ville de Nantes, sans savoir que j'étais originaire de Nantes. Parce que c'était okay. Pas du tout... voilà, moi, je vis à Paris depuis des années, j'avais pas du tout fait valoir cette origine. Et donc, ils ont découvert à cette occasion que j'étais nantaise. Et donc, un peu plus tard, mais comme un certain nombre d'écrivains, ils m'ont agrégé à cette académie, donc, okay, mais parmi les membres d'honneur. C'est-à-dire que pour être... Non, mais ça veut pas dire que je suis un membre particulier, ça veut dire que je suis un membre lointain qui vit à Paris et qui ne peut pas aller aux réunions. Voilà.
Très bien. C'était, alors vraiment, c'était une question un peu parenthèse presque, mais écoutez, c'est dit. Comment vous vivez la sortie d'un livre en général ?
Mal.
Mal, c'est vrai ? Ça
oui.
veut dire quoi, mal ?
Bah, mal, c'est-à-dire je suis une anxieuse de nature.
Okay.
Je suis donc très anxieuse de savoir si la presse va suivre. Je trouve que c'est un parcours... oui, assez difficile. C'est difficile d'aller au bout d'un livre. Mais quand on a fini, on est content. Mais un autre chemin vous attend, c'est effectivement la rencontre avec le public. Et c'est toujours... alors, il peut y avoir de très bonnes surprises. Ce qui se passe pour ce livre-ci en est quand même une. Mais certaines fois, c'est moins convaincant. C'est parfois difficile, oui.
C'est parfois difficile.
On met beaucoup de soi dans ouais. un livre ouais. et pour animer des ateliers d'écriture avec des étudiants à la Sorbonne, je sais bien comment des étudiants peuvent réagir sur la critique d'un texte qu'ils ont fait. Donc, il faut imaginer ce que c'est quand c'est un livre qui vient après d'autres livres, qui vous a pris 2-3 ans de rumination et de travail, et dans lequel, évidemment, vous engagez plus que... je ne sais pas, dans une thèse ou... Parce que ce n'est pas de la matière intellectuelle, c'est, ouais. c'est vous-même que vous mettez en cause. Donc, la critique, elle vise... On a l'impression qu'elle vise quelque chose ouais. de plus profond. Donc, c'est toujours... L'exposition est toujours difficile. D'autant comme vous le devinez à partir de ce que je vous dis, je suis quelqu'un d'assez silencieux. Enfin, non pas silencieux dans le réel, je suis très bavarde, mais silencieux sur ce qui me touche.
Vous venez d'en parler un petit peu, de ce livre a un plutôt bon accueil, comme on dit. Vous avez déjà eu le prix des libraires de Nancy, le point cette
oui,
année.
Oui, à la rentrée, oui.
Au salon
oui,
du livre
oui,
de Nancy.
Oui, ce qui était une très très bonne nouvelle pour moi. Oui.
Très bonne nouvelle, et ce qui est une nouvelle d'autant plus prometteuse qu'à l'heure à laquelle on se parle, donc je ne sais même plus combien on est, mais on est le 18 octobre. Vous êtes dans la sélection du prix Goncourt, du prix de l'Académie française, du prix Médicis, et je crois que j'ai rien oublié. C'est bon. Ma question est la suivante. Comment est-ce que vous vivez ce vrai engouement de la part, pour le coup, des professionnels pour ce livre ? Quel sentiment vous traverse ?
J'en suis très heureuse, hein, parce que être reconnu ouais. et être reconnu... Alors, on vise d'être reconnu par le public le plus large, hein, c'est certain. Mais déjà, être reconnu par les gens de la profession, pour moi, c'est une belle victoire, en fait. Bon, ça s'est fait progressivement, dans mon cas. Mais là, j'ai le sentiment que la reconnaissance que j'ai est acquise. Maintenant, on veut toujours plus, et ce n'est pas parce que je suis sur plusieurs listes de prix que j'en aurai un.
Bien sûr.
Et c'est là que je suis inquiète et que vu les années que j'ai derrière moi de travail acharné, évidemment, j'espère.
Il n'y a plus que ça, de toute façon. Je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez un, plusieurs coups de cœur culturels à nous partager?
J'ai vu récemment le film d'Aki Korismaki.
Les feuilles mortes, c'est ça?
Les feuilles mortes, oui, que j'ai trouvé très beau, comme tout ce qu'il fait, très, très étonnant, cette espèce de bricolage, on dirait des toiles de Hopper, comme ça, assemblées. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Et puis, bah, autrement, oui, j'ai toujours des auteurs que j'aime beaucoup. Je suis une grande lectrice de romancières anglaises.
D'accord.
Et il y a une romancière anglaise que j'adore, qui est assez peu lue. Elle est morte en 80, hein. C'est pas tout récent, mais c'est Barbara Pym. J'ai beaucoup aimé aussi les livres de Peter Stamm, dont on parle actuellement.
Ouais.
Et je suis une fanatique d'Emmanuel Bove, qui est mort en 47.
Oui. J'adore mes amis.
Voilà,
il en
moi
a fait
aussi.
Plein d'autres, mais...
Moi aussi. J'ai voulu faire une thèse sur Emmanuel Bove quand
comprends.
J'ai lu Emmanuel Bove. Et c'est toujours pour moi un crève-cœur de voir qu'il n'a pas, à mon avis, le public, ouais. Le lectorat qu'il pourrait avoir. Pour moi, mes amis, c'est...
C'est génial. Je
ah
conseille
ouais.
aussi, tiens. Allez, hop.
Eh bien voilà, conseillons-le ensemble. Ça aura peut-être de l'effet.
Peut-être. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.